Retrouvez votre émission sur NutriRadio avec PharmManager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. NutraActu sur NutriRadio.
J'ai oublié l'intro de cette émission. Bonjour à tous. Moi, je suis tellement passionné par mes échanges aussi hors antenne par Nicolas Grelot, qui est notre invité du jour, que je suis resté dedans et j'ai loupé l'intro. Ça arrive. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus donc dans cette émission du Tractu. Et comme on enregistre dans les conditions du direct, il est hors de question, mesdames, messieurs, qu'on la refasse. Bonjour Nicolas.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Ah oui, sinon on perd un peu de l'authenticité. C'est vrai que vous me parliez des chiffres du marché avant, une analyse que vous me livriez en avant-première, comme ça, et sur laquelle on va revenir bien évidemment, qui est assez intéressante. Et donc, ça nous sert aussi de teaser. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour avoir certains chiffres dont on n'a pas forcément l'occasion de discuter et d'analyser. Donc, ce sera fait en fin d'émission. En tous les cas, l'une des émissions peut-être les plus attendues, hein, de ces Nutractus, ce sont les chiffres du marché, puisqu'avec Nicolas Grelot, chaque mois, vous le savez, Nicolas Grelot, qui est le directeur général d'OpenHealth, eh bien, on revient sur les chiffres du marché en officine. Comment se sont portées les ventes de produits nutraceutiques en officine? Est-ce que le marché va bien? Je rappelle, en officine, hein, c'est important, parce que parfois je vous croise et vous dites « Oui, mais en bio, c'est pas ça. » Oui, non, là, on est sur l'officine, et c'est un peu ça qui rythme aussi le secteur, puisque la grande majorité des ventes se fait là-bas. Alors, Nicolas, quels sont les chiffres? Quelles sont les tendances? Est-ce que le marché se porte bien?
Alors, au mois d'avril 2024, le marché s'est plutôt très bien comporté et c'est plutôt un plaisir pour moi de commenter ces chiffres en forte hausse. Le marché de la nutraceutique, c'est plus 14% par rapport au mois d'avril 2023, donc une croissance à deux chiffres qui reste dans la tendance de ces derniers mois, avec une affluence en pharmacie qui est particulièrement soutenue depuis quelques mois.
Alors, à quoi c'est dû cette influence en pharmacie? C'est toujours en corrélation avec les maux de l'hiver et ces températures basses qu'on a connues, ou est-ce que c'est juste pour aller chercher vraiment des produits parce qu'on a décidé d'y aller et qu'on veut ces compléments?
Alors, on essaye d'observer, hein, des comportements et surtout des changements de comportement des Français dans leur relation avec la pharmacie. Alors, la pharmacie est devenue un centre de santé de proximité. On y vient pas seulement quand nous sommes en crise, quand on a un besoin symptomatique, comme on dit, mais également pour y trouver des solutions au quotidien, des solutions de prévention. Donc la nutraceutique, finalement, s'inscrit très bien dans cette nouvelle tendance qui s'est plutôt accélérée, développée après la pandémie. Donc il y a beaucoup de raisons finalement de venir maintenant en pharmacie.
Est-ce qu'il y a plus de jours ouvrés que d'autres?
Alors
sur le mois d'avril de l'année dernière, je veux dire.
Oui, alors sur le mois d'avril, on a effectivement un effet jour ouvré. Alors c'est pas forcément ce qui va complètement modifier la performance au global. Là sur le mois d'avril, on avait le lundi de Pâques qui était donc le 1er avril. On a 30 jours avec 25 jours ouvrables. Donc on n'a pas d'effet spécialement jour ouvré sur le mois d'avril 2024.
Bien, et alors question, tiens, ça fait longtemps que je voulais vous la poser et à chaque fois j'oublie. Donc là, elle me revient depuis que je prends des oméga 3, je me porte beaucoup mieux en termes de mémoire. Je vais être redoutable. Nicolas Grelot, question. On m'a dit, oui, mais l'augmentation, par exemple, des chiffres du marché en pharmacie, elle peut être aussi liée à l'inflation. Pas forcément sur une augmentation de la demande, mais juste une augmentation du prix.
Alors c'est une bonne question, mais si on regarde le volume, en nombre de boîtes dispensées sur le mois d'avril 2024, on est à plus 13%. Donc finalement l'effet prix, on pourrait dire, et la différence entre le plus 14% en valeur et le plus 13% en volume, donc c'est plus 1%. Donc c'est avant tout une croissance de la demande au comptoir qui est observée en nutraceutique.
Eh ben voilà, merci d'avoir répondu à la volée comme ça, Nicolas, et d'avoir mis un terme à ce suspense. On marque une petite pause et on va voir quels sont les segments qui fonctionnent bien. Les marques aussi Challenger, celles qui ont une croissance particulièrement notable. Et donc en fin d'émission, ces chiffres basés sur une réflexion de Nicolas Grelot, ou plutôt une réflexion basée sur des chiffres aussi de Nicolas Grelot de OpenHealth. C'est juste après ceci.
Nutractu sur Nutri Radio.
Nicolas Grelot d'OpenElf, le directeur général, est avec nous comme chaque mois pour nous donner les chiffres du marché. Ils sont plutôt bons puisqu'en mois d'avril, cette année a été supérieure de 14% sur les ventes de produits nutraceutiques en officine par rapport au mois d'avril de l'année précédente. Donc 14%, c'est quand même plutôt très sympa. Hein. Je pense que ça fonctionne bien. Et il est temps de découvrir les segments qui poussent cette croissance.
Alors, on a finalement la contribution de tous les grands segments à cette croissance. Les grands segments que sont la vitalité, plus 20% de croissance. Donc, on est même en surperformance par rapport au marché. Alors, je rappelle quand même que la vitalité au mois d'avril 2023 était plutôt en régression, en baisse. Donc, on a effectivement ce qu'on appelle un effet base. Donc, plus 20%. Le confort intestinal, plus 14%. Le sommeil, plus 24%, c'est typiquement un segment qui est en forte croissance depuis maintenant plusieurs années en pharmacie. Et puis, on peut citer d'autres segments plus petits qui sont également en forte croissance, qu'on a eu l'occasion de commenter ces derniers mois. Le confort féminin, par exemple, plus 31%. Et la nutri-cosmétique, plus 35%. Donc, je dirais que c'est une combinaison la croissance de grands segments que sont la vitalité et le sommeil, typiquement, et puis de plus petits segments qui sont en fort développement ces derniers mois, comme la santé féminine, notamment, et la nutri-cosmétique.
Alors, santé féminine qui explose, on peut le dire, à ces niveaux-là, tout comme la nutri-cosmétique d'ailleurs. Est-ce que ça va continuer d'augmenter, selon vous, à ce niveau-là?
Alors c'est peu probable que en tout cas ça s'arrête du jour au lendemain. On a typiquement sur la santé féminine un changement de paradigme hein, qui s'opère. On voit, on observe nous un certain nombre de projets arriver en pharmacie. Je pense que ça répond à un vrai besoin. Les pharmaciens expriment finalement cette réalité qu'il y a une demande au comptoir à satisfaire. Donc on est probablement au début d'un nouveau cycle où émergera un nouveau rayon au comptoir sur le point de vente officinal qu'est la santé féminine.
Et alors, quid pour les hommes, est-ce qu'on peut se dire que la santé aussi masculine va apparaître? Vous savez, c'est comme les salons de coiffure où il y a eu des barbeurs, la barbershop qui aussi maintenant fonctionne très très bien, alors que pendant longtemps c'était plus un secteur, on va dire, qui mettait en avant en termes de marketing la femme. Est-ce que ça peut aussi évoluer à ce niveau-là? Est-ce que les hommes vont enfin comprendre l'intérêt de la nutraceutique, ou est-ce que c'est parce que c'est juste les femmes aussi qui achètent pour eux?
Alors on a vu à l'occasion de nombreuses études le fait que vous avez plus de deux tiers des patients sur le point de vente qui sont des femmes actives et en charge, on va dire, des achats du foyer de la famille. Donc il me semble qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que on voit apparaître un marché de la santé masculine. Néanmoins, dans certains segments très spécialisés, je pense notamment à la fertilité, on voit que un certain nombre de produits se sont assez largement développés ces dernières années. En tout cas, on a la levée de certains tabous. Et là, je parle encore une fois de la fertilité, qui est un bon exemple pour moi de ce virage et de ces nouvelles habitudes de consommation.
C'est vrai. Tabou, la libido, c'est masculine. Alors, c'est quoi le produit que vous prenez déjà, Nicolas? Non, je plaisante, évidemment. Allez, on marque une pause. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Nutractu avec Nicolas Grelot. C'est juste après ceci.
Nutractu sur Nutri Radio.
Allez, dernière partie déjà de cette émission Nutractu. Nicolas Grelot, directeur général d'OpenElf, est notre invité comme chaque mois pour décrypter, décrypter les chiffres de la nutraceutique en officine. Vous pouvez peut-être nous rappeler ces chiffres rapidement, Nicolas?
Alors, l'officine, c'est particulièrement bien comporté en avril 2024 au global, mais en particulier sur la nutraceutique, avec une croissance de plus 14%. Et ce qu'on soulignait, c'est qu'on a des segments qui sont au-delà de cette croissance, comme la vitalité, plus 20%, le sommeil, plus 24%, donc des grands segments de la nutraceutique en forte croissance, mais également de plus petits segments dont on décrit là depuis quelques mois le fort développement, comme la santé féminine et la nutri cosmétiques, respectivement plus 31% et plus 35% pour la nutri-cosmétique, avec beaucoup d'offres et beaucoup de projets qui arrivent en pharmacie.
Bien, on va revenir d'ailleurs sur les offres des produits nutraceutiques en officine et sur le marché plus généralement dans un tout petit instant. Auparavant, on aime bien aussi, comme vous savez, il n'est pas les bons points, mais il y a des marques notables dont la croissance en tous les cas est notable. Alors, il y a les grosses marques, bien évidemment, mais des marques challenger qui tirent leur épingle du jeu, qui progressent assez fortement. Et quelles sont-elles ces marques challenger, on va dire, en officine?
Alors, on va citer quelques marques qu'on va situer dans le deuxième tableau, c'est-à-dire au-delà du top 50. Donc, on va citer Neobiancide, plus 53%. Donc là, on est sur une marque d'avocat, notamment, donc dans la sphère digestive. Nutravance, plus 29%. On est sur des gammes de probiotiques. Forte Nuit, plus 35%. Donc là, on va deux à trois fois plus vite que le marché. Olioseptil, plus 21%. Fémanose de Mélisana, plus 23%. Donc là, on est typiquement dans la santé féminine qu'on évoquait à l'antenne il y a quelques instants. Et Colpropure, collagène, avec différentes applications, allégations, mais notamment dans le confort articulaire, plus 30%. Et puis, je vais citer Valda également, un petit peu plus loin dans le listing, qui est en croissance de plus 33%. Valda, qui est une marque assez iconique hein, en pharmacie, qui se développe très fortement depuis quelques mois.
Très bien. Alors, vous avez cité la marque Colpropure. Est-ce que c'est une marque qui existe depuis longtemps, ça, par exemple? Parce qu'on sait que le collagène, ça fonctionne bien. Et ma question, comme je ne la connais pas, je ne connais pas toutes les marques, bien évidemment, mais est-ce que ce sont des marques qui se créent parce que le marché est porteur et elles apparaissent ou alors est-ce que c'est des marques qui, depuis des années, œuvrent en se disant « Non, mais collagène, collagène, collagène » et qui, là, retirent un peu les fruits de leur investissement historique?
Alors là, pour le coup, on est sur une marque qui a été relativement pionnière, c'est-à-dire qu'elle est là depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu, cette nouvelle vague pour se lancer. Donc là, on est sur un acteur qui est déjà bien établi sur le collagène, donc aussi bien, hein, comme je le disais, sur la partie articulaire, mais également sur la partie peau. On a vraiment différentes propositions. Donc ça, c'est typiquement un acteur qui a été plutôt innovant sur la nutraceutique et qui s'est lancé déjà il y a, je dirais, plus de 5 ans sur le marché de la pharmacie.
Très bien, bah voilà une bonne initiative. Et puis, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission avec ce petit teaser. Vous avez relevé un chiffre qui est justement révélateur de réflexion, puisque, et vous allez y revenir dans un instant très en détail, mais grosso modo, ce marché de la nutraceutique, il est trusté par 200 marques hein, qui représentent 50% du marché, donc 200 produits pardon qui représentent 50% du marché, donc c'est pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelques marques qui trustent la moitié du gâteau, et l'autre moitié du gâteau par contre elle est multiple avec plus de 1000 marques plus de 1000 produits différents qui représentent les autres 50%. Donc ça veut dire, est-ce que revenez d'abord sur les chiffres concrets, parce que peut-être que j'ai pas été très clair peut-être en même temps sur ce coup-là.
Non, vous avez été très clair. Alors, en fait, c'est vraiment une manière de voir le marché de la nutraceutique. Vous avez deux piliers dans la nutraceutique. Vous avez des marques très établies, très fortes, qui répondent aux grands besoins, on va dire, des consommateurs français. Donc, on va en compter 200 produits dispensés au comptoir qui pèsent effectivement 50% des ventes. Et puis, le deuxième pilier, c'est ces autres 1650 marques, produits, hein, pour être tout à fait exact, hein, produits qui représentent les autres 50% et qui couvrent une extraordinaire variété de besoins, de segments pour répondre donc aux attentes des Français. Et je dirais que la nutraceutique vit un peu au rythme de ces deux mondes qui coexistent. Et ce que je voulais souligner, c'est que à travers ces 1700 produits qui pèsent aujourd'hui 50% des ventes, on a beaucoup d'innovation. Donc l'effort d'innovation est avant tout porté par toutes ces petits petites marques, petits produits qui démultiplient, on va dire, les offres dans l'intérêt des consommateurs français.
Et alors, est-ce que vous pensez justement sur ces milliers là de produits qui se disputent les 50% restants, quelle est la stratégie pour elle à adopter ? C'est de se racheter entre elles pour justement peser plus dans ce gâteau ou au contraire se faire acheter peut-être par les marques qui exploitent les 200 produits qui réussissent à se vendre très très bien ?
Alors c'est une bonne question. Alors il appartiendra probablement aux marques de répondre, mais globalement, je pense que leur enjeu, il me semble, c'est avant tout d'acter une forme de spécialisation, c'est-à-dire que la nutraceutique devient un marché exigeant en termes de qualité, de crédibilité scientifique. Donc un des enjeux de tous ces plus petits acteurs, c'est d'être reconnu comme un spécialiste d'un des segments ou porteur d'une innovation en particulier. Et une fois qu'ils auront, on va dire, installé cette crédibilité, je pense que se posera effectivement la question d'un autre cycle de croissance qui peut se faire en apportant effectivement sa marque à un groupe plus grand qui souhaite éventuellement élargir son offre sur des plus petits segments pour capter de nouveaux consommateurs.
Et alors, sur ces milliers de produits, est-ce que ce sont des produits pérennes ou est-ce que c'est renouvelé, mais ils sont à chaque fois remplacés c'est temps remplacé, ça ne dure pas dans le temps finalement?
Alors, je dirais, on va avoir les deux cas. Vous avez dans ces 1700 produits, vous avez des produits qu'on connaît très très bien, qui sont des produits qui sont bien installés dans les habitudes de consommation des Français, mais vous avez également des produits qui ont pu à un moment donné surfer sur une tendance, une vague, une mode, et qui ont une durée de vie plutôt assez limitée. Alors je rappelle que dans le marché de la nutraceutique, il y a une des caractéristiques de ce marché, c'est ce qu'on appelle le churn. C'est-à-dire qu'on a un fort renouvellement de ces produits en pharmacie. Si vous prenez 100% de boîtes vendues dans une année, vous avez près de 30% qui sont faites par des produits qui ont moins de 3 ans d'existence, donc des produits relativement récents. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce marché qui a la capacité de se renouveler très vite, très rapidement, sur beaucoup d'allégations en France, et ça c'est aussi la force de ce marché.
Eh bien merci beaucoup Nicolas Grelot, on va terminer cette émission avec évidemment l'exercice que vous maniez à merveille, ceinture noire de synthèse, Nicolas Grelot, pour, si vous venez de nous rejoindre, garder la substantifique moelle des informations que vous nous avez données aujourd'hui, Nicolas.
Alors en résumé, on est sur un marché qui est en forte croissance, croissance à deux chiffres, plus 14% en avril 2024, quand on se compare à avril 2023. Quand on regarde qui sont les segments contributeurs à cette croissance, on voit que les grands segments ont contribué, comme la vitalité, plus 20%, le sommeil notamment, plus 24%, et puis d'autres segments plus petits qui sont en fort développement ces derniers mois, comme la santé féminine, plus 31%, ou la nutri-cosmétique, plus 35%. On a également cité quelques marques dont la croissance est particulièrement soutenue en avril 2024. Néobiancide d'Aboca, plus 53%, la gamme Nutravance, plus 29%, Forte Nuit dans le sommeil, plus 35%, ou encore Fémanose de Mélisana, plus 23%. On s'est arrêté sur Colpropure, qui a été assez pionnier et innovant sur le marché du collagène, avec une croissance de plus 30%, qui opère sur le marché de la pharmacie depuis plusieurs années. Et puis ensuite, on a échangé sur ce marché de la nutraceutique, sur le visage de ce marché, qui finalement reposait sur deux piliers. Un premier pilier qui était constitué de 200 produits, qui pèsent aujourd'hui 50% des ventes, mais surtout, et également 1700 autres produits très très innovants qui pèsent les 50 autres % du marché, avec beaucoup d'allégations beaucoup de spécificités, beaucoup de galéniques pour répondre à tous les besoins de ce grand marché de la nutraceutique.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Grelot. On va se retrouver le mois prochain pour ce qui sera déjà le dernier Nutractu de la saison. Soyez là, évidemment. Nicolas Grelot, le directeur général d'OpenElf, merci à vous. Cette émission, vous la retrouvez dans la foulée là, hop, sur Nutri Radio, dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio si vous voulez la réécouter ou si vous venez à peine d'arriver. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Fabrice, merci à tous.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous.
Nutractu sur Nutri Radio.